sur les ondes de la VOA.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs et bienvenue dans l'Amérique et vous. Eric Manelakidza sur VOA Afrique, m'étant depuis Washington DC. Merci de me recevoir chez vous, Lionel Lunanira Gahima, sur la mise en onde. Le pays de l'oncle Sam a commémoré lundi le Juneteenth, la fin de l'esclavage aux États-Unis. La fête tire son nom de la combinaison de la date du 19 et du mois de juin. La date est également connue sous le nom de jour du jubilé, jour de l'émancipation et journée de la liberté. Elle est célébrée avec des réunions de famille, des défilés et des festivals. L'année passée, Juneteenth est devenue la 11e fête fédérale, reconnue par le Congrès et promulguée par le président Joe Biden. Ce fut l'aboutissement d'un long combat de Opal Lee, 94 ans, connue comme la grand-mère du Juneteenth. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. L'Amérique et vous accueillent ce soir l'ambassadrice Hera Mayad, directrice du programme Afrique de Atlantic Council. Bonsoir.
Bonsoir.
Marlene Sefocle, professeure à Howard University. Bonsoir.
Bonsoir.
Karine Kanezan-Antulia, directrice en charge du plaidoyer pour l'Afrique à Human Rights Watch. Bonsoir.
Bonsoir et je salue également les autres panélistes.
Merci d'être avec nous. Marlene Sefocle, je vais commencer par vous. Le Juneteenth est célébré par les Africains-Américains depuis plus de 150 ans. Voudriez-vous brièvement nous parler de son caractère historique?
Oui, c'est un jour très important. Et le jour où les Noirs américains du Texas ont su qu'il y avait eu une abolition de l'esclavage. En fait, ils le savaient déjà, mais ça n'avait pas du tout été mis en pratique dans l'État du Texas. Donc ils ont reçu la nouvelle, si vous voulez, officiellement 2 ans plus tard.
C'est aussi la récente fête nationale aux États-Unis. Une femme s'est illustrée pour y arriver, n'est-ce pas? Comment elle mène son combat, Marlene Sefocle?
Alors, vous parlez sans doute de Mme Opal Lee, qui a mené son combat depuis déjà 6 ans. Et elle a chaussé ses baskets et elle s'est rendue de Galveston, Texas, jusqu'à la Maison-Blanche. Elle a mis le temps qu'il fallait, elle a chaussé ses baskets, elle a rassemblé plus d'un million de signatures et elle s'est retrouvée à Washington pour plaider cette cause, pour que Juneteenth soit reconnu et que le Juneteenth signifie quelque chose d'extrêmement important pour les États-Unis, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage.
Ramayad, faut-il dire « et Dieu créa Opal Lee »
Écoutez, oui, c'est vraiment une contribution historique et qu'il faut saluer. C'est une mobilisation qui permet à l'histoire de s'accélérer. Cet événement, cette célébration est à la fois un acte de résistance et une démonstration de force au sens de résilience, aussi bien pour les combattantes d'aujourd'hui que celles d'hier à travers sa personne. Mais plus largement, je pense que c'est ce qu'elle a voulu montrer. Juneteenth, c'est un moment, c'est un moyen d'honorer le passé, de reconnaître les luttes du présent et d'appeler au progrès pour l'avenir. Ici, où je vous parle, à Washington, une ville historiquement à prédominance noire, la fête est largement reconnue et observée comme une célébration capitale de la libération des Noirs. Cependant, nous ne pouvons pas nous empêcher de réaliser qu'il y a encore de gros obstacles à cette libération aujourd'hui même. Et cette fête n'est pas partagée par toute la nation. Et lentement, on voit un appel à l'action pour que les gouvernements locaux reconnaissent cela, ce qui est un jour férié fédéral. Voilà. Et pour cela, c'est pas facile dans un moment où on parle beaucoup de la théorie critique de la race par les établissements d'enseignement. On parle beaucoup des combats pour permettre aux électeurs noirs de voter, sans parler des violences policières avec le meurtre de George Floyd qui continue de créer du malaise. Donc voilà, c'est une fête qui est observée, qui est censée être une fête fédérale à l'échelle nationale, mais le combat n'est pas fini parce que cette fête n'est pas partagée et puis les combats qui y sont attachés demeurent plus vivaces que jamais.
Nous allons y revenir. Karine, vous êtes activiste vous-même. Que vous inspire Opali? Comme disait Pierre Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années.
Exactement. Gentile n'est pas une fin en soi. C'est peut-être parfois pour certains le début justement d'une lutte à peine entamée. Pour toutes les deux, je pense que Opali fait partie justement, prend sa place fermement parmi ces éclaireurs. Gentile, c'est aussi une fête qui n'est pas célébrée partout, et c'est un moment de recueillement, et c'est un moment de réflexion et de réévaluation justement par rapport à dans quel moment se trouve la société américaine et surtout la population noire américaine. Et là, évidemment, toute la question, par exemple, des réparations, comme vous le savez, Juneteenth de cette année, quand même, il y a eu des activistes pour la question de la réparation aux États-Unis qui ont organisé une manifestation, par exemple, devant la Maison Blanche, pour demander justement au président Biden de tenir la promesse qu'il a faite aux Noirs américains d'évaluer, de mettre en place une commission pour justement légiférer sur cette question des réparations. Donc, encore une fois, c'est un moment qui n'a pas de fin et qui a justement des dynamiques suivant les époques dans lesquelles on se retrouve. En 1865, c'était l'appréhension que la liberté avait été offerte, évidemment, à l'arrache. Il ne faut pas non plus oublier que cette liberté, cette proclamation a été faite au prix de beaucoup de souffrances et de beaucoup de sang versé. Aujourd'hui, en 2022, les États-Unis, ce sont ces demandes que des activistes, qu'on pourrait dire des descendants de familles, n'est-ce pas, de façon idéologique, qui font maintenant justement d'autres demandes devant la Maison Blanche.
Les défenseurs de cette cause, comme Mme Lee, estiment qu'il s'agit d'une journée de réflexion sur la terrible empreinte de l'esclavage dans l'histoire américaine et de célébration semblable à celle du 4 juillet. Ramayad, vous inscrivez le Juneteenth dans le sillage de la lutte des droits. Il y a cette soif de liberté qui est grande et qui redoute les lendemains aux États-Unis.
Oui, bien sûr. C'est compte tenu des divisions qui existent dans le pays, cet objectif de libération reste vivace. Des mesures doivent encore être prises pour permettre d'atteindre cet objectif. Je vous citais le problème de la suppression des électeurs sur les listes électorales dans les circonscriptions, la question des violences, la question des réparations, le démantèlement du racisme, l'enseignement que certains États remettent en cause. Et donc, Juneteenth, rappelons-le, c'est une célébration très, très récente. Le combat d'Opali a duré des décennies, mais ce n'est qu'en 2021, en juin 2021, qu'on célébrait pour la première fois ce moment fondateur. Et donc, je crois vraiment qu'il est important que cette célébration très spéciale puisse aussi devenir universelle. Parce que le combat pour la liberté, la lutte contre l'esclavage, est un combat universel. Les Africains-Américains sont les descendants d'esclaves déportés d'Afrique et dispersés aussi dans le monde entier, donnant des diasporas du Pakistan aux Caraïbes, en passant par la Réunion et l'Europe. Donc moi-même, je suis né au Sénégal, j'ai grandi à Dakar, en face de l'île de Gorée qui a vu tant de nos ancêtres enlevés pour être emmenés en Amérique. L'océan Atlantique qui nourrit les familles sénégalaises a été leur cimetière aussi, tout comme la côte des Almadies qui est devant, qui porte les stigmates de tout cela. Et sur l'arbre généalogique de ma famille, mes arrière-grands-parents ont enregistré les noms des disparus. L'Afrique n'a jamais oublié les enfants qu'elle a perdus. Et sur le plan géopolitique, il n'y a pas d'Amérique sans les esclaves africains et leurs enfants et leurs petits-enfants. Vous voyez ? Donc, c'est tout ça dont on parle. C'est un retentissement universel. On part du combat d'une militante texane, dit cette marche pendant si longtemps pour une reconnaissance dont nous allons tous bénéficier. Et quand je dis tous, c'est pas seulement les Africains ou les descendants d'esclaves africains, c'est aussi les autres communautés, parce que c'est une histoire de l'humanité aussi.
C'est une histoire de l'humanité, et Mme Lee espère également que le Juneteenth deviendra un jour d'unité nationale, comme vous venez de le dire. Vous avez bien fait de souligner cet aspect africain, Saint-Louis qui a joué le rôle de centre de transit dans l'acheminement des esclaves de l'intérieur en direction des Amériques. Marlene Sefocle, vous avez entendu Ramayad souligner cet aspect, la minorité noire qui subit encore des discriminations en matière d'emploi, de logement ou encore de santé, malgré les avancées de la lutte pour les droits civiques dans les années 1960.
Oui, la lutte pour les droits civiques continue jusqu'à maintenant. On a eu l'impression, du moins certains ont pensé qu'avec l'élection de Barack Obama, on amorçait une ère qui était une ère post-raciale, comme on le disait. Mais ce n'est pas du tout le cas. On a vu récemment avec les différentes violences qui ont été perpétrées contre les Noirs américains, par exemple, non seulement dans le cas de George Floyd, mais de Breonna Taylor, de Ahmaud Arbery, on se rend compte que cette lutte continue. C'est un chemin qui a commencé dès l'inception, si vous voulez, dès le départ, dès le fondement des États-Unis. Les États-Unis se sont forgés, il faut le dire, dans la violence, c'est-à-dire dans l'extermination des Amérindiens et dans l'esclavage des Africains-Américains. C'était là déjà au départ, quand les hommes blancs ont signé cette constitution américaine, quand ils ont mis en place cette constitution américaine, ils ont mis en place un deuxième amendement. Et ce deuxième amendement consistait à porter des armes. Mais c'est une constitution qui a été écrite par des hommes blancs, propriétaires terriens, mais aussi propriétaires d'esclaves, pour la plupart d'entre eux. Et ce second amendement s'adressait donc principalement à eux. Ils voulaient préserver leurs terres et surtout pouvoir se défendre contre les esclaves. Cette même constitution que les hommes blancs américains ont mise en place considérait les Noirs américains comme étant 3/5 d'un être humain. 3/5 d'un être humain. Donc, on voit bien que dès le départ, la constitution américaine n'incluait pas les Noirs américains en tant que personnes. Et donc, pour revenir aux violences faites contre les Noirs américains, les premiers policiers, au départ, quand les États-Unis ont été formés, c'était des chasseurs d'esclaves. Et en 1865, ces policiers n'ont pas du tout, après l'abolition de l'esclavage, n'ont pas pour autant changé d'activité. Pourquoi ? Eh bien parce que les nouveaux esclaves, c'était maintenant ce qu'on appelait les convicts. Leasing. Et c'était ceux qui faisaient partie du convict leasing, c'est-à-dire de la location de criminels. Donc, quand les Blancs ont promulgué ces lois, ces fameuses lois Jim Crow, ils visaient surtout à criminaliser les Noirs, à leur ôter leur liberté, à les réduire à nouveau à l'esclavage. Donc, c'était très cruel. Par exemple, les Noirs n'avaient pas le droit de regarder une femme blanche. Les Noirs n'avaient pas le droit de vendre leur récolte après une certaine heure. Ils n'avaient pas le droit de dépasser plus tard. Ils n'avaient pas le droit de dépasser les Blancs en voiture. Donc, le 13e amendement, qui était en fait qui donnait la liberté aux Noirs, reprenait cette liberté parce qu'il y avait une condition, une clause dans ce 13e amendement qui disait que les Noirs seraient libres à moins qu'ils soient criminels. À ce moment-là, leur liberté pouvait leur être ôtée. Et donc, s'ils enfreignaient ces fameuses lois Jim Crow, ils pouvaient être réincarcérés. Et ce n'est qu'en 1964 que le président Lyndon Johnson met fin à une telle à ces lois Jim Crow en ratifiant la loi des droits civiques. Donc c'est un très long chemin quand on dit que l'esclavage a été aboli en 1865. On ne se rend souvent pas compte qu'entre 1865 et 1964, il y a eu une période également d'esclavage. Mais c'était un esclavage qui avait un autre nom, puisque à n'importe quel moment, surtout pas seulement dans le Sud, mais aussi dans le Nord, on a tendance à l'oublier, un Noir pouvait être simplement arrêté sous l'accusation de blanc. Voilà. Et donc, c'est ainsi justement que naît cette organisation terroriste qui est le Ku Klux Klan en 1866. Et en 1866, ils font régner, et à partir de 1866, ils font régner la terreur. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu des présidents américains qui ont soutenu cette nouvelle forme d'esclavage. Le président Wilson, en 1900, 2012, il montrait très fièrement à la Maison Blanche le film Birth of a Nation. Ce film Birth of a Nation, c'est un film qui était à la gloire du Ku Klux Klan. Il ne faut pas oublier que, par exemple, dans les années 1920-1922, 75% des policiers américains, dans la plupart des États, dans beaucoup d'États, par exemple dans l'État d'Oklahoma, ils étaient membres de ce fameux Ku Klux Klan, de cette organisation terroriste. Donc, on passe du policier chasseur d'esclaves, puisque c'était là son attribution au départ, à maintenant policier justicier. Donc, l'homme blanc s'érige en justicier après l'esclavage. Et donc, on est dans une période où on déplore énormément ces violences policières contre les Noirs américains. Mais il faut voir toute cette histoire, toutes ces années, ces décennies de violences policières contre les Noirs après l'abolition de l'esclavage. Donc c'est une mentalité, si vous voulez, qui n'a pas tout à fait changé jusqu'à nos jours. C'est une mentalité qui ne cesse d'évoluer. Mais aujourd'hui, ce qui contribue à la violence, très souvent aux États-Unis, c'est cette haine qui a été cultivée pendant des siècles par certains blancs américains vis-à-vis de la population noire américaine.
Karine, le président Biden parle d'une tâche morale et du péché originel de l'Amérique quand il parle de l'esclavage. Vous dites qu'il n'en fait pas assez pour réparer, mais il a les mains liées. Il ne peut rien faire tout seul s'il n'a pas le Congrès derrière lui.
Par exemple, en termes d'action, c'est par exemple de lui demander de promulguer par secret une loi, d'utiliser ses pouvoirs exécutifs pour mettre en place, par exemple, le projet de loi H.R. 40, qui est la commission chargée d'étudier, de développer des propositions de réparation. Nous savons par exemple que ce mardi, les sénateurs ont envoyé une lettre au président Biden en lui demandant d'utiliser ses pouvoirs exécutifs pour justement mettre en place une commission de réparation au niveau fédéral. Et il faut aussi qu'on garde en tête que cette commission, lorsqu'on parle du concept de réparation, ce n'est pas tout simplement de répondre, d'amener une réponse aux préjudices historiques, tels que par exemple, je pense que monsieur avait souligné déjà dit, tout ce qui a été mis en place à travers les pratiques et les lois ségrégationnistes, comme les lâchages, les lois de Jim Crow par exemple, l'ère de Jim Crow. Mais c'est aussi examiner les préjudices contemporains qui continuent, par exemple, en termes d'inégalité profonde, en termes d'accumulation de richesses, accès à la santé, au développement, à l'emploi, à l'éducation, à la nutrition, au transport, sans évidemment oublier le traitement abusif des membres de la police, par exemple. Il faut aussi se rappeler que l'inégalité économique américaine, lorsqu'on appuie le concept d'inégalité économique, il faut aussi comprendre que cette inégalité est étroitement liée justement au clivage ratio qui existe en termes de richesse et de revenus. Et au niveau de la richesse et du revenu américain, ces revenus et cette richesse sont beaucoup plus bas. La pauvreté est beaucoup plus accrue au sein de la population nord-américaine. On se parle justement de Philippines. Mais c'est aussi une lutte qui domine une grande solidarité et qui est aussi le produit de la rencontre de plusieurs mouvements et de plusieurs processus. Et par là, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un momentum qui a été pendant des siècles, qui a vraiment été poussé par que ce soit la révolte des esclaves haïtiens au 18e siècle, que ce soit la rencontre de Malcolm X au niveau de l'ONU en 1964, lorsqu'il a demandé qu'il y ait une commission qui examine, il a demandé la solidarité des chefs d'État africains, c'est qu'il y ait une commission qui examine la question justement du racisme institutionnel aux États-Unis, que ce soit la rencontre des panafricanistes en 1974 durant le 6e congrès panafricaniste, tous ces moments, ce sont des moments importants qui font que justement cette date aujourd'hui devient une réalité.
Ramayad, le président Joe Biden, en promulguant Juneteenth comme fête fédérale, il a dit qu'elle symbolise à la fois la longue et difficile nuit de l'esclavage et de la soumission, vous l'avez dit, et la promesse d'un jour meilleur. Est-ce que ce jour meilleur est arrivé ou la marche est restée longue?
Évidemment, la marche est encore longue à cause de la part importante du déni. Vous savez, le refus de reconnaître les fautes du passé, leur impact sur la la vie des Africains-Américains aujourd'hui aux États-Unis a une dimension politique très forte. Elle se traduit politiquement par des oppositions larvées au Congrès, dans les États locaux. Donc oui, c'est un combat de longue lutte. Et puis, on le voit, cela s'inscrit en fait dans une réalité quotidienne que subissent encore les Africains-Américains, que ce soit la politique en matière de logement, que ce soit la fracture raciale qu'on voit s'exprimer lors des grandes catastrophes, comme nous rencontrons Katrina en 2005 ou encore la crise des subprimes en 2008. Plus récemment, la pandémie du Covid qui frappe les communautés africaines-américaines plus que d'autres. Les disparités dans l'accès aux soins en santé. Et puis, évidemment, les noms qu'on n'oublie pas, ceux de Pure Rodney King, Eric Garner, Michael Brown, Trayvon Martin, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, toute la problématique de l'incarcération massive des Noirs. Tout ça est inscrit en fait dans la réalité quotidienne, l'héritage douloureux de cette époque et rend vivace la question des réparations qui reste une question ouverte. Ce n'est pas quelque chose quand même d'inédit dans l'histoire. Les Amérindiens ont reçu des terres, eux aussi, après avoir mené de longues luttes, et ils continuent encore d'ailleurs, et divers programmes pour avoir été exilés de force de la terre natale. Les Américains d'origine japonaise aussi, avaient, pour avoir été internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça ne serait pas un précédent, mais ce serait évidemment une nécessité au regard de tous ces morts, ces lynchages, les familles disloquées, les mariages brisés, les enfants séparés de leurs parents. C'est ça, la dimension morale, la dimension économique, la dimension sociale. Les tentatives qui ont eu lieu ont été fausses, puisque la première grande opportunité, ça a été après la guerre de sécession, lorsque les dirigeants de l'Union avaient conclu que chaque famille noire devait recevoir 40 acres et une mule. Et puis bon, ça a été annulé. Puis le New Deal a été aussi une autre occasion manquée. Donc aujourd'hui, beaucoup disent, oui, mais comment on répare? On est dans le débat et on ne répare pas parce qu'on ne sait pas comment réparer. Ça, c'est l'autre manière d'être dans le déni aussi. Or, des travaux ont existé à tous les niveaux, chez les chercheurs, chez les économistes, chez les sociologues, chez même les élus, pour faire des propositions, que ce soit les paiements individuels pour éliminer l'écart de richesse, les frais de scolarité au collège et à l'université, les remises de prêts étudiants, les subventions au logement, aux entreprises qui démarrent. Voilà, il y a tout ça. Après, il y a la question aussi de qui doit recevoir. Et là aussi, évitons les manœuvres dilatoires. Des précédents existent dont on pourrait s'inspirer. Donc, voilà un peu tout ce qui est devant nous, cet agenda qui est lourd et qu'il faut garder à l'esprit dans un pays comme les États-Unis. Et puis, je crois aussi qu'au niveau éducatif, il reste beaucoup à faire. Le narratif sur l'esclavage et ses conséquences, c'est pas qu'une question de victimes, c'est aussi une question de combattants. Les esclaves n'ont pas été libérés par mansuétude de leurs bourreaux, mais parce qu'ils se sont révoltés, qu'ils n'ont jamais cédé, et de la pratique des noms cachés dans les plantations jusqu'aux guerres, aux luttes, aux mères qui jetaient leurs enfants sur leurs bébés à la mer pour ne pas être pris. L'histoire d'esclavage est d'abord une histoire de résilience, et je pense que ça aussi, ce narratif-là, doit être expliqué dans le système éducatif. Les esclaves n'ont pas été libérés, ils ont gagné leur liberté. Et cette résistance-là, c'est l'héritage que je retrouve aujourd'hui dans ces combats des Africains-Américains à travers Juneteenth, par exemple. Voilà, donc c'est à travers le mouvement des droits civiques, à travers le mouvement des libertés, les mouvements panafricains que notre ami vient de citer, à travers Malcolm X, Marcus Garvey, les grands mouvements panafricains, la NACCP ou même le Black Lives Matter aujourd'hui. Donc c'est une histoire de combattants et je crois que ça, il faut le dire, parler réparation n'est pas seulement une histoire de victimes, c'est aussi une histoire de résistance, de résilience et de combat pour la liberté.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous. Merci à Marlene Sefok, le professeur à Howard University. Merci de votre contribution.
Je vous en prie. Je voulais juste ajouter également qu'en tant que personne qui est descendante de ces personnes qui ont été réduites à l'esclavage, il faut se rendre compte qu'il y a eu progrès, mais qu'il y a encore tout un progrès qui doit être réalisé simplement parce que on est maintenant à une période vraiment charnière où il s'agit de sauver la planète également. Il s'agit de sauver les humains, mais de sauver également la planète.
Ok, Karine Kanezan-Antulia, directrice en charge du plaidoyer pour l'Afrique à Human Rights Watch. Merci.
Merci beaucoup, Eric, et merci à mes autres camarades.
Merci à l'ambassadrice Ramayad, directrice du programme Afrique de Atlantic Council.
Merci à vous. J'étais très, très contente de participer à cet échange avec Marie Sofoc et Karine Nantulia. Merci beaucoup.
Merci. Vous êtes toujours la bienvenue dans cette émission. Eric Manilakiza a été avec vous à la présentation, la mise en onde assurée par Lionel Nani Lagalima. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.